Et pour commencer ce journal, une étude dans la revue Science, étude qui montre que l'on vient d'identifier la protéine clé du coronavirus.
Et les virus exposent à leur surface une ou plusieurs protéines qu'on appelle des protéines de structure qui leur permettent de rentrer dans différents types cellulaires et les infecter. Une équipe américaine a réalisé une carte 3D de cette protéine à l'échelle moléculaire. Il faut se rendre compte, cette étude arrive 2 mois après la découverte du coronavirus. Dans le passé, il aurait fallu 10 ans pour avoir ce type d'information. Ça, c'est possible grâce à la technique de microscopie électronique cryogénique. Des échantillons de virus sont refroidis à moins 150 degrés, puis bombardés avec un flux d'électrons. Les chercheurs ont enregistré comment les électrons rebondissaient pour ensuite pouvoir reconstruire la forme 3D des molécules. Cette découverte ouvre la voie à un nouveau vaccin. Isabelle Haber est enseignante-chercheure à Aix-Marseille Université au laboratoire Architecture et Fonction des macromolécules biologiques.
Ces chercheurs ont fait une avancée très importante en déterminant la structuration, la structure à l'échelle atomique de cette protéine, qui est la spike protéine, la protéine de surface, qui permet au virus de rentrer dans les cellules, en l'occurrence les cellules pulmonaires. Et donc ça va avoir de grandes implications pour la vaccination, pour les approches, on va dire, utilisant des antiviraux, parce que là, on sait exactement comment c'est assemblé. Donc quand on connaît la cible au niveau structural, c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'on appelle du design rationnel. Les sociétés pharmaceutiques estiment un temps moyen de production autour de 20 mois. La vraie avancée, ce que ça va permettre de débloquer, c'est l'identification d'anticorps qu'on appelle neutralisants. Une des informations très importantes, c'est donc là on connaît la clé, c'est connaître quel type cellulaire il va reconnaître. Ce système clé porte, entre guillemets, ce qui définit les tropismes des virus. Le tropisme, c'est par exemple les virus de l'hépatite C, de l'hépatite B, ne sont capables que d'infecter le foie, parce que leur protéine de surface n'ouvre la porte que des hépatocytes, que des cellules du foie. Donc là, les chercheurs ont pu aller très très vite dans l'identification du récepteur, parce que ce récepteur ACE2, il a été défini comme étant le récepteur qui permet au virus du SARS-coronavirus d'infecter les cellules. Et donc, étant donné qu'il y a une identité de séquence de 80% entre ce nouveau coronavirus et le SARS-coronavirus, ils se sont dit, il y a quand même une forte identité. Donc dans cet article, ils ont amené des éléments qui montrent qu'il semblerait que donc, ce nouveau coronavirus utilise également le récepteur cellulaire ACE2 pour entrer dans les cellules.
Voilà, et vous pouvez retrouver, comme tous les jours, l'étude, le lien vers l'étude concernant cette protéine du coronavirus sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. En bref, dans Nature Communications, une première avec la création en laboratoire de morceaux d'ADN artificiels capable de s'auto-répliquer.
Et les chercheurs de l'Institut Max Planck en biochimie en Allemagne ont créé, in vitro, un génome de synthèse qui peut régénérer lui-même ses composants moléculaires. De l'ADN polymérase qui réplique ensuite de l'ADN à l'aide de nucléotides. Grâce à la spectrométrie de masse, ils ont pu observer et quantifier le nombre de protéines produites. Selon les auteurs, reproduire en laboratoire ce processus biologique de réplication génomique est une avancée majeure pour les biotechnologies.
Et une étude publiée dans Science Advances propose une nouvelle date de naissance pour la planète Terre.
Oui, la Terre se serait formée beaucoup plus vite que nous ne le pensions. Les scientifiques de l'université de Copenhague au Danemark ont analysé les isotopes du fer du manteau terrestre via diverses météorites. Les chercheurs pensent que le noyau de fer de la Terre s'est formé tôt à travers une pluie de poussière cosmique, un processus plus rapide que l'accumulation de roches plus grosses. Pendant ce temps, le noyau de fer s'est ainsi formé. Donc selon eux, notre planète n'aurait mis que 5 millions d'années à se former. C'est beaucoup plus court que dans les modèles actuels qui prévoient des dizaines de millions d'années.
Et on poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Selon une étude parue dans Science, l'antihydrogène ressemble très très fort à l'hydrogène.
Et l'étude de l'antimatière est un champ difficile et plutôt récent. Ce n'est que depuis 2010 qu'on arrive à piéger de l'antihydrogène. L'antimatière a cette propriété de se détruire au contact de la matière. Les chercheurs jouent donc là-dessus pour les détecter. Cette étude, il s'agit de l'expérience Alpha au CERN de Genève. Cette équipe a piégé des antiatomes d'hydrogène dans une bouteille magnétique pendant des heures. Pour étudier leur transition, ils envoient un laser et attendent qu'un antihydrogène croise le faisceau laser pour faire une transition. Les propriétés d'un antiproton et d'un positron, l'antiparticule de l'électron, ont donc été mesurées pour la première fois. Les observations correspondent à celles d'un atome d'hydrogène très ordinaire. C'était un résultat attendu, mais cela ne résout pas l'un des plus grands problèmes de la physique. Où est passée l'antimatière de l'univers? Pauline Comini est physicienne au CEA Saclay et à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers.
Alors, donc, l'expérience Alpha se consacre à la spectroscopie de l'antihydrogène. Donc, c'est d'observer des transitions optiques dans l'atome d'antihydrogène. On a toute une série de sous-niveaux dans l'antihydrogène. Ces deux niveaux, 2S1μ et 2P1μ, qui, dans le cadre de l'équation de Dirac, sont à la même énergie. Sauf que en 47, quand Lamb va étudier l'hydrogène, eh bien, il va trouver un petit écart entre ces deux niveaux. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le décalage de Lamb, cet écart d'énergie entre ces deux niveaux. Là, le nouvel article qu'il publie, c'est de regarder les écarts, cette fois, entre ces sous-niveaux, donc ce qu'on appelle la structure fine de l'antihydrogène. Et donc, notamment, ils vont regarder les écarts entre les différents états de 2P et le fameux décalage de Lamb entre le 2S1/2. Pour l'instant, les mesures faites sur l'antimatière sont en accord avec les mêmes mesures faites sur la matière, donc en l'occurrence sur l'antihydrogène et l'hydrogène. Ce n'est pas un résultat révolutionnaire, effectivement, c'est un très très joli résultat, mais on est toujours à la recherche du moindre écart entre les deux. Et donc pour l'instant, on n'a pas une explication suffisante pour dire qu'il y a effectivement bien une asymétrie entre la matière et l'antimatière. L'asymétrie CBT nous dit que justement la matière et l'antimatière sont différentes. À un niveau moindre, on a, si on prend juste deux symétries, si on dit C et P, donc la charge et la parité, eh bien là on trouve cette fois des écarts, des différences entre la matière et l'antimatière. Mais pour l'instant, ce qu'on a trouvé, eh bien, ce qu'ils observent n'est toujours pas suffisant pour expliquer pourquoi l'antimatière a quasiment disparu de l'univers.
En bref, selon une étude parue dans Science Advances, ouvrir vos fenêtres n'aide pas du tout à réduire la pollution de l'air intérieur.
Et les chercheurs de l'Université de Toronto au Canada ont étudié la persistance de 19 produits chimiques que l'on trouve le plus souvent dans nos foyers. Dans une maison test, après avoir fait la cuisine et le ménage, ils ont mesuré les niveaux de ces produits chimiques dans l'air. Ils ont ensuite aéré la maison pendant 15 à 30 minutes et ont refait des mesures avec des méthodes de spectrométrie de masse. Résultat, les niveaux des produits chimiques dans l'air sont exactement les mêmes. Selon eux, les produits chimiques libérés pendant nos activités ne s'évaporent pas lorsque nous ouvrons les fenêtres, mais au contraire, ils peuvent rester collés au mur et au mobilier.
Et cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question d'une nouvelle méthode de fécondation in vitro, du rôle des microbiotes dans la lutte contre le diabète. Nous avons vu qu'il y avait des différences cérébrales chez les personnes au comportement antisocial. Et il a été question également de la preuve que les dinosaures avaient le sang chaud. Mais dans l'actualité des sciences cette semaine, également Natacha et en ultra bref.
Et selon de nouvelles recherches, il suffirait de changer l'altitude des avions pour réduire de plus la moitié l'impact climatique de leurs traînées. Ces traînées de condensation qui se produisent à cause des gaz d'échappement polluent l'atmosphère pendant des heures. Cette nouvelle méthode pourrait très rapidement réduire l'impact climatique global de l'industrie aéronautique. Cette semaine, nous avons fait la découverte de nouveaux fossiles de Stupendamis geographicus, l'une des plus grandes tortues au monde, qui a vécu en Amérique du Sud durant le Miocène il y a plus de 8 millions d'années. Avec sa carapace de 3 mètres de long, on sait que ces tortues étaient aussi grosses que des hippopotames et qu'elles pesaient plus d'une tonne. Et enfin, dans la revue Science, on trouve de nouvelles preuves sur l'influence des stéréotypes de genre dès l'enfance. Selon cette étude, les enfants ont tendance à considérer les personnages masculins comme plus intelligents que les personnages féminins. Les petites filles, quant à elles, s'estiment moins intelligentes que les petits garçons, et ce, dès l'âge de 6 ans.
Et comme tous les vendredis, on termine par la rubrique des sciences improbables. Et Natacha, je suis ravi d'apprendre qu'il est désormais possible d'offrir un morceau de mon cerveau à la science de mon vivant.
Oui, un cerveau bien vivant quand vous êtes en vie. L'Institut Allen pour la science du cerveau à Seattle a mis en place un nouveau programme de dons pour la recherche. On peut se douter, ces échantillons sont précieux. Les échantillons de cerveau vivant sont très rare, hein, même les dons post-mortem sont très difficiles. Et dans le cas de certaines opérations pour traiter l'épilepsie ou pour éliminer des tumeurs, des parties de cerveau, grosses comme des morceaux de sucre, sont jetées. Grâce à ce programme de dons, plutôt que de les jeter à la poubelle, vous pouvez à présent les offrir à la science.
Il en reste plus assez, il s'est trop abîmé déjà. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Je me retourne vers mes vulgarisateurs de choc du vendredi.